À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça?
Pourquoi c'est comme ça?
C'est où?
C'est qui, lui?
Un jour, une question. À quoi sert la Tour Eiffel? La Tour Eiffel sert surtout à mener des expériences scientifiques. Elle attire aussi des touristes du monde entier qui viennent admirer sa vue sur Paris. Surnommée « asperge de métal » par les Parisiens mécontents lors de sa construction, car trop voyante, elle est devenue le symbole de Paris et de la France. Mais pourquoi l'a-t-on construite? La Tour Eiffel a permis à la France de briller lors de l'exposition universelle de 1889. Ces expositions, organisées à chaque fois dans un pays différent, dévoilent des inventions extraordinaires. En 1889, c'est au tour de Paris. Pour l'occasion, l'ingénieur Gustave Eiffel propose de construire la tour la plus haute du monde. Après de longs mois de calcul et de fabrication des pièces qui vont la composer, les travaux débutent le 26 janvier 1886. 2 ans, 2 mois et 5 jours plus tard, la tour Eiffel surplombe la capitale. Un contrat prévoit que la tour, au départ à Gustave Eiffel, revienne à la ville de Paris au bout de 20 ans. De peur qu'elle soit détruite, l'ingénieur prouve son utilité en multipliant les recherches scientifiques à son sommet. Il y installe un observatoire météo encore utilisé de nos jours. D'autres, après lui, y font les premières liaisons radio et télé réussies. Ouf, la tour est sauvée et a même grandi. Aujourd'hui, elle mesure 12 mètres de plus, soit 324 mètres grâce à sa coiffe d'antenne radio et télé. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.
À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça?
Pourquoi c'est comme ça?
C'est où?
C'est qui, lui?
Un jour, une question. À quoi sert la Tour Eiffel? La Tour Eiffel sert surtout à mener des expériences scientifiques. Elle attire aussi des touristes du monde entier qui viennent admirer sa vue sur Paris. Surnommée « asperge de métal » par les Parisiens mécontents lors de sa construction, car trop voyante, elle est devenue le symbole de Paris et de la France. Mais pourquoi l'a-t-on construite? La Tour Eiffel a permis à la France de briller lors de l'exposition universelle de 1889. Ces expositions, organisées à chaque fois dans un pays différent, dévoilent des inventions extraordinaires. En 1889, c'est au tour de Paris. Pour l'occasion, l'ingénieur Gustave Eiffel propose de construire la tour la plus haute du monde. Après de longs mois de calcul et de fabrication des pièces qui vont la composer, les travaux débutent le 26 janvier 1886. 2 ans, 2 mois et 5 jours plus tard, la tour Eiffel surplombe la capitale. Un contrat prévoit que la tour, au départ à Gustave Eiffel, revienne à la ville de Paris au bout de 20 ans. De peur qu'elle soit détruite, l'ingénieur prouve son utilité en multipliant les recherches scientifiques à son sommet. Il y installe un observatoire météo encore utilisé de nos jours. D'autres, après lui, y font les premières liaisons radio et télé réussies. Ouf, la tour est sauvée et a même grandi. Aujourd'hui, elle mesure 12 mètres de plus, soit 324 mètres grâce à sa coiffe d'antenne radio et télé. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.
Bonjour Patrice Raz.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du grand livre de l'entretien d'embauche paru chez Studirama. Pour un candidat qui est aujourd'hui à la recherche d'un emploi, d'un stage ou d'une alternance, que doit-il mettre dans son CV ?
Alors en fait, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question puisque la plupart des gens mettent spontanément ce qu'il faut mettre, c'est-à-dire l'état civil, leur formation, leur expérience et souvent des compétences annexes ainsi que la fameuse rubrique divers où on rajoute souvent un peu les hobbies. La vraie question c'est comment trier ces informations parce qu'à l'intérieur de chacune de ces catégories, il y a des informations utiles et d'autres qui sont inutiles. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est le critère de choix de ces rubriques, en fait, toutes ces informations. Le critère, c'est le projet. Donc pour moi, la première information qui doit apparaître sur un CV, et malheureusement qui n'y est pas toujours, c'est le projet professionnel du candidat. Donc il faut indiquer en titre, au début du CV, le poste recherché par le candidat, parce que c'est la première question que se posent tous les recruteurs du monde. Qu'est-ce qu'ils recherchent ?
Et si c'est une candidature spontanée ? Dans ce cas-là, c'est peut-être un peu plus délicat.
Non, pour moi, c'est rigoureusement la même chose. Simplement, la question que doit se poser le candidat, c'est est-ce qu'il cherche un poste précis ou une famille de postes ? Il y a des candidats, des jeunes diplômés par exemple, qui peuvent exercer plusieurs postes en parallèle et qui peuvent même hésiter des fois entre un poste de chef de produit ou études de marketing. Ils peuvent très bien indiquer la famille de postes en libellé au début du CV pour orienter, faciliter le travail du recruteur. Et ensuite, ce poste va être le critère de choix de toutes les informations. Toute information qui conforte, qui rassure le recruteur par rapport au poste doit figurer dans le CV. Et à l'inverse, évidemment, toute information qui n'a rien à voir ou qui est plutôt même un peu inquiétante ou accessoire doit être supprimée systématiquement du CV.
Je prends un exemple pour un jeune candidat donc qui sera à la recherche d'un stage ou d'un premier emploi même. Oui. Est-ce qu'il est intéressant de mettre en avant ces petits jobs, ces petits boulots, les jobs étudiants, même s'ils n'ont rien à voir avec le poste visé ?
Alors ça, c'est une question très complexe. En fait, moi, j'aurais tendance à dire oui, mais. C'est-à-dire que, en fait, cette dernière rubrique, ça peut être soit un joker pour un candidat, c'est-à-dire la cerise sur le gâteau, ce qui répond à la dernière question du recruteur, pourquoi ce candidat plutôt qu'un autre, puisque de toute façon, à un moment donné, les CV vont être quasiment identiques, même formation, même expérience, même âge, même langue, etc. Donc ça peut être le petit plus qui donne envie de rencontrer ce candidat plutôt qu'un autre. Sauf que, malheureusement, c'est souvent une rubrique poubelle, dans laquelle les candidats mettent tout et n'importe quoi, et surtout en vrac, sans avoir ni réfléchi, ni trié, ni valorisé les informations. Donc il faut faire le tri dans ses loisirs ou ses hobbies, et se poser la question suivante, à l'intérieur de ça, quels sont mes points forts, c'est-à-dire les compétences extra-professionnelles que j'ai développées à travers une association, un projet, une relation familiale ou autre, qui montre un plus qui pourrait être utile éventuellement par rapport au poste.
Est-ce qu'il y a des choses justement à éviter ou à bannir complètement du CV ? Est-ce qu'on peut oser l'originalité ou pas ?
Oui, moi je pense qu'on peut oser l'originalité. L'originalité, c'est un moyen de se faire remarquer. Et comme de toute façon, on doit se faire remarquer, puisque les recruteurs reçoivent des dizaines, voire des centaines ou des milliers de CV, c'est toujours un plus de se faire remarquer. Sauf que, évidemment, il faut se faire remarquer de façon positive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire remarquer pour des choses qui donnent une impression négative. Donc il faut aussi réfléchir à la qualité de l'information et à ce que ça donne comme impression sur une image positive ou négative du candidat. Donc c'est forcément pour moi un point positif. Soit une compétence, soit une qualité, soit une connaissance de quelque chose.
Merci. Pour tous les candidats donc, qui souhaiteraient effectivement avoir encore plus de conseils pour réussir leur CV, je les invite à découvrir le livre donc, de Patrice Raz, donc, le grand livre de l'entretien. Bonjour Patrice Raz.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du grand livre de l'entretien d'embauche paru chez Studirama. Pour un candidat qui est aujourd'hui à la recherche d'un emploi, d'un stage ou d'une alternance, que doit-il mettre dans son CV ?
Alors en fait, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question puisque la plupart des gens mettent spontanément ce qu'il faut mettre, c'est-à-dire l'état civil, leur formation, leur expérience et souvent des compétences annexes ainsi que la fameuse rubrique divers où on rajoute souvent un peu les hobbies. La vraie question, c'est comment trier ces informations parce qu'à l'intérieur de chacune de ces catégories, il y a des informations utiles et d'autres qui sont inutiles. Et ce qu'il faut jamais oublier, c'est le critère de choix de ces rubriques, en fait, ou de ces informations. Le critère, c'est le projet. Donc pour moi, la première information qui doit apparaître sur un CV, et malheureusement qui n'y est pas toujours, c'est le projet professionnel du candidat. Donc il faut indiquer en titre, au début du CV, le poste recherché par le candidat, parce que c'est la première question que se posent tous les recruteurs du monde. Qu'est-ce qu'ils recherchent ?
Et si c'est une candidature spontanée ? Dans ce cas-là, c'est peut-être un peu plus délicat.
Non, pour moi, c'est rigoureusement la même chose. Simplement, la question que doit se poser le candidat, c'est est-ce qu'il cherche un poste précis ou une famille de postes ? Il y a des candidats, des jeunes diplômés par exemple, qui peuvent exercer plusieurs postes en parallèle et qui peuvent même hésiter des fois entre un poste de chef de produit ou études de marketing. Ils peuvent très bien indiquer la famille de postes en libellé au début du CV pour orienter, faciliter le travail du recruteur. Et ensuite, ce poste va être le critère de choix de toutes les informations. Toute information qui conforte, qui rassure le recruteur par rapport au poste doit figurer dans le CV. Et à l'inverse, évidemment, toute information qui n'a rien à voir ou qui est plutôt même un peu inquiétante ou accessoire doit être supprimée systématiquement du CV.
Je prends un exemple pour un jeune candidat, donc qui sera à la recherche d'un stage ou d'un premier emploi même. Oui. Est-ce qu'il est intéressant de mettre en avant ces petits jobs, ces petits boulots, les jobs étudiants, même s'ils n'ont rien à voir avec le poste visé ?
Alors ça, c'est une question très complexe. En fait, moi, j'aurais tendance à dire oui, mais c'est-à-dire que, en fait, cette dernière rubrique, ça peut être soit un joker pour un candidat, c'est-à-dire la cerise sur le gâteau, ce qui répond à la dernière question du recruteur, pourquoi ce candidat plutôt qu'un autre, puisque de toute façon, à un moment donné, les CV vont être quasiment identiques, même formation, même expérience, même âge, même langue, etc. Donc ça peut être le petit plus qui donne envie de rencontrer ce candidat plutôt qu'un autre. Sauf que, malheureusement, c'est souvent une rubrique poubelle dans laquelle les candidats mettent tout et n'importe quoi, et surtout en vrac, sans avoir ni réfléchi, ni trié, ni valorisé les informations. Donc il faut faire le tri dans ses loisirs ou ses hobbies, et se poser la question suivante, à l'intérieur de ça, quels sont mes points forts, c'est-à-dire les compétences extra-professionnelles que j'ai développées à travers une association, un projet, une relation familiale ou autre, qui montrent un plus qui pourrait être utile éventuellement par rapport au poste.
Est-ce qu'il y a des choses justement à éviter ou à bannir complètement du CV ? Est-ce qu'on peut oser l'originalité ou pas ?
Oui, moi je pense qu'on peut oser l'originalité. L'originalité, c'est un moyen de se faire remarquer. Et comme de toute façon, on doit se faire remarquer, puisque les recruteurs reçoivent des dizaines, voire des centaines ou des milliers de CV, c'est toujours un plus de se faire remarquer. Sauf que, évidemment, il faut se faire remarquer de façon positive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire remarquer pour des choses qui donnent une impression négative. Donc il faut aussi réfléchir à la qualité de l'information et à ce que ça donne comme impression sur une image positive ou négative du candidat. Donc c'est forcément pour moi un point positif. Soit une compétence, soit une qualité, soit une connaissance de quelque chose.
Merci. Pour tous les candidats donc, qui souhaiteraient effectivement avoir encore plus de conseils pour réussir leur CV, je les invite à découvrir le livre donc, de Patrice Raz, donc, le grand livre de l'entretien